à vos enfants. Un texte de Laurie Zéphir paru le 18 avril 2024 dans Urbania. Imaginez ce scénario. Il fait beau et votre enfant vous demande d'aller au parc. Après tout, quelques glissades, ça ne fera pas de tort pour bien dépenser son énergie. Vous arrivez tout sourire, mais ça ne dure pas bien longtemps. Il y a un gros chien et c'est au top de vos peurs. Précisons ici que le dit chien n'est pas en train de courir vers vous. Il est couché, calme et en laisse à côté de son maître. Pourtant, vous avez les mains moites et sentez votre cœur battre plus rapidement. Vous avez envie de crier fort à votre enfant « Cours !» Mais vous vous retenez, parce que la dernière chose que vous souhaitez lui transmettre, c'est cette peur des chiens. L'anxiété de parent à enfant. Tout d'abord, votre réflexe de ne pas trop exposer votre anxiété est le bon. Pour un enfant, voir son parent paniquer peut être déstabilisant. En effet, votre enfant se base sur vos réactions pour interpréter ce qui l'entoure. Lorsqu'un parent ressent régulièrement de l'anxiété et de la peur, l'enfant pourrait interpréter ce qui l'entoure comme n'étant pas sécuritaire. Un tel réflexe freine toutefois son exploration qui est primordiale pour son développement. Il peut être confrontant de penser que, malgré vos meilleures intentions, vous pourriez transmettre vos propres peurs à votre enfant. Vous le remarquez peut-être que vous réagissez fortement lorsque votre enfant nage dans l'eau, même avec ses flotteurs et une surveillance, ou quand il touche le plancher du centre d'achat et que vous anticipez presque une gangrène. Bref, peu importe la peur, vous n'avez probablement pas envie de la passer à votre enfant. Rappelez-vous, surtout si vous commencez à remarquer que votre enfant présente des comportements anxieux, que vous êtes la personne la mieux placée pour qu'il puisse se sentir compris et validé dans ce qu'il ressent. Vous savez aussi qu'apaiser son anxiété demande du temps et du travail. Vous êtes donc un atout pour l'aider dans son processus. Il faut aussi savoir que les problèmes d'anxiété ont généralement une base génétique et environnementale. Ainsi, plutôt que de culpabiliser, rappelez-vous que l'environnement que vous allez créer pour votre enfant peut limiter le développement d'un trouble anxieux. Pour ce faire, il est important d'apprendre à apaiser le vôtre. Quelques stratégies pour apaiser son anxiété. Commencez par identifier vos peurs. Identifier ce qui peut déclencher vos peurs est une étape importante. Pour ce faire, relevez les indices dans votre corps quand vous vivez une montée d'anxiété. Boule dans le ventre, bouche sèche, maux de tête. Savoir reconnaître votre anxiété vous permet de changer votre discours interne pour qu'il passe de « je suis face à une menace et je dois me protéger » à « je suis en sécurité, ce que je ressens, c'est de l'anxiété ». Évitez d'éviter. Un des mécanismes fréquemment utilisés lorsque l'on ressent de l'anxiété, c'est d'éviter les situations inconfortables. Par exemple, dans l'exemple du chien au parc, partir vous procurerait effectivement un sentiment d'apaisement, mais vous renforcerez l'impression de dangerosité de la situation, alors que ce n'est peut-être même pas le cas. En restant au parc, même si c'est en demeurant à l'écart du chien, vous vous exposez graduellement à votre anxiété. C'est une étape pour défaire cette association automatique entre chien et menace. Apprendre des techniques d'apaisement. On peut blâmer Internet pour bien des choses, mais il faut avouer qu'à ce niveau, il vous sera bien utile. Des techniques de respiration ou de méditation qui peuvent vous suivre partout se trouvent autant sur la toile que sur des applications. Faire preuve de patience. Apprendre à apaiser son anxiété est un processus qui peut être difficile par moments. La patience envers vous sera nécessaire, ainsi que la capacité à constater l'ampleur de votre cheminement personnel. L'objectif ne devrait pas être de vous féliciter seulement lorsque vous ne ressentirez plus d'anxiété, ce qui est d'ailleurs impossible, mais plutôt de célébrer chaque petit pas vers l'avant. Et d'autocompassion. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes autour de vous peuvent aussi avoir de la difficulté à gérer leur anxiété. Voir que vous n'êtes pas anormal peut contribuer à vous enlever cette pression. Tous les humains vivent de l'anxiété à des degrés différents, et celle-ci peut être utile lorsque l'on sait mieux la reconnaître et l'exprimer. En terminant, si vous voulez diminuer votre anxiété pour le bien de votre enfant, sachez que vous devez avant tout le faire pour vous. L'anxiété peut être difficile à vivre au quotidien et c'est pourquoi vous ne devriez pas hésiter à chercher de l'aide si vous avez besoin de soutien pour l'apprivoiser. C'est tout ce cheminement que vous pourrez partager à votre enfant afin d'éventuellement l'aider à son tour. C'était « Voici comment éviter de transmettre votre anxiété à vos enfants ». Un texte de Laurie Zéphir paru le 18 avril 2024 dans Urbania.
Vers la fin du permis pour les guides touristiques à Montréal, un texte d'Annabelle Caillou paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir. La saison estivale accueille chaque année environ 11 millions de visiteurs. À leur côté, les guides illégaux sont de plus en plus nombreux. Consciente du problème, l'administration Plante compte changer la réglementation encadrant l'exercice du métier, mais n'exclut pas la possibilité de supprimer l'obligation de détenir un permis au grand dam des guides certifiés et des agences touristiques. Je peux comprendre le manque de ressources, mais supprimer le permis va juste empirer la situation, s'inquiète Michel Ménard, président de l'Association professionnelle des guides touristiques de Montréal, APGT. Guide passionné et en règle, depuis une quinzaine d'années, il craint une déprofessionnalisation de son métier. Le permis est un gage de qualité. Être guide, c'est pas une job étudiante ou un à côté, c'est un métier en soi. On a une formation complète, on met à jour nos connaissances, on ne raconte pas n'importe quoi, souligne-t-il. Montréal fait partie des rares villes en Amérique du Nord, avec Québec et New York, à exiger un permis pour l'exercice du métier de guide touristique. Valide un an, le permis coûte 105 $ et s'obtient à la suite d'une formation de 240 heures au coût d'environ 2500 $ donnée par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ. En plus d'enseigner des techniques de guidage et l'histoire de Montréal, celle-ci intègre des sujets comme l'urbanisme, l'architecture, l'art public et l'immobilier. Le règlement municipal G2, qui encadre l'industrie des guides touristiques, prévoit une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction. En cas de récidive, l'amende monte jusqu'à 1000 $. Sur papier du moins, car dans les faits, le règlement n'est pas appliqué, ce que déplorent l'APGT et plusieurs compagnies touristiques contactées par Le Devoir. Montréal confirme n'avoir remis aucun constat d'infraction à des guides illégaux dans les dernières années. Elle explique au Devoir vouloir miser davantage sur la valorisation du métier de guide plutôt que sur la répression. Aux acteurs du milieu, elle indique plutôt avoir des difficultés à appliquer son règlement et vouloir ainsi l'actualiser. La ville a entamé une large réflexion afin de modifier le règlement. Elle se donne l'actuelle saison pour faire les évaluations nécessaires, a confirmé le porte-parole Hugo Bourgoin par courriel. Invité à participer à la réflexion, l'APGT, l'ITHQ, Tourisme Montréal et des représentants d'agences doivent rencontrer l'administration Plante cet automne pour proposer des solutions. Est-ce que le permis obligatoire et la formation qui vient avec pourraient être abandonnés? La ville envisage toutes les options, a répondu M. Bourgoin. Lutter contre les guides illégaux. Le milieu reconnaît le besoin de dépoussiérer le règlement G2. Les règlements actuels datent et doivent être adaptés pour répondre aux réalités contemporaines, soutient Aurélie de Blois, porte-parole de Tourisme Montréal. mais tous les intervenants consultés affirment croire encore en la pertinence d'exiger un permis et une formation. Il y va de la réputation de Montréal, reconnue pour le professionnalisme de son accueil, soutient la directrice des communications de l'ITHQ, José Legault. L'école a conscience qu'à l'issue des réflexions, il sera peut-être nécessaire d'ajuster son offre de formation. Selon l'APGT et les entreprises offrant des tours guidés, le permis obligatoire est un outil essentiel pour lutter contre les faux guides. Ces derniers se multiplient depuis quelques années, engagés par de grandes compagnies internationales qui proposent des visites à faible coût sur des plateformes comme Airbnb, Booking ou Viator. Sans permis ni formation, ils s'improvisent guides touristiques et donnent des informations incomplètes, voire fausses, aux visiteurs. À ce jour, pour l'année 2024, Montréal compte 183 guides certifiés. Impossible de connaître le nombre exact de guides illégaux qui parcourent la ville à leur côté. D'après l'APGT, plus de 5000 personnes chaque année font une visite avec un guide non certifié, ce qui donne une idée de l'ampleur du phénomène. Concurrence déloyale. Le cofondateur de Local Food Tours, Frédéric Nissen, dénonce par ailleurs la concurrence déloyale de ces compagnies internationales qui fragilisent la survie d'entreprises touristiques locales, dont la sienne. Cela fait 12 ans que M. Nissen propose des visites gourmandes dans le Maryland. Or, depuis 5 ans, l'entreprise internationale Secret Food Tour, en activité dans plus de 50 villes dans le monde, propose la même visite. Résultat, Frédéric Nissen a connu une baisse allant de 50% à 70% des réservations pour cette visite et a dû diversifier son offre. « C'est de la concurrence déloyale », déplore-t-il. « Les entreprises du genre ne facturent pas la TPS ni la TVQ et ne payent certainement pas d'impôts au Québec. Nous, oui. Elles engagent en plus des guides non certifiés et à un plus bas salaire. » Facile, dans ce contexte, de proposer des visites moins chères et que les clients vont préférer. Appliquer le règlement G2, c'est une des seules solutions pour bloquer ce capitalisme sauvage international dans notre domaine. J'espère que la ville ouvrira les yeux et fera le bon choix, souligne-t-il. Comment savoir si votre guide est certifié? Les guides touristiques doivent obtenir un permis auprès de la Ville de Montréal qu'ils portent ensuite autour de leur cou durant les visites. Il est aussi possible de poser la question à l'agence touristique lors de la réservation du tour ou de se référer à la liste d'agences partenaires sur le site de l'APGT. À Québec, le permis n'est pas près de disparaître. En 2016, la Ville de Québec a, sans crier gare, aboli l'obligation d'avoir un permis et une formation pour devenir guide touristique. En colère, le milieu s'est mobilisé pour faire changer d'avis l'administration Labeaume. Fin 2016, la Ville a fait un pas en arrière et rétabli l'obligation de détenir un permis. Celui-ci est valide un an et coûte actuellement 63 $. Pour l'obtenir, il faut suivre une formation obligatoire au cégep Champlain-Saint-Lawrence ou au collège Mérici. À ce jour, pour l'année 2024, 292 permis ont été délivrés par la Ville de Québec. Les guides touristiques locaux qualifiés contribuent de façon importante aux efforts d'accueil et de promotion. Québec étant inscrite à la liste des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Ville de Québec doit s'assurer que les informations transmises par les guides sont justes et de qualité, explique Amélie Cochon, porte-parole de l'administration municipale. Annuellement, moins d'une dizaine d'infractions au règlement sont relevées dans la vieille capitale. Là encore, la répression n'est pas de mise. Les guides sans permis sont informés et sensibilisés sur l'obligation d'en détenir un pour donner des visites. C'était Vers la fin du permis pour les guides touristiques à Montréal, un texte d'Annabelle Caillou paru le 24 juillet 2024 dans Le Devoir.
Apprendre à vivre et à mourir. Un texte de Nathalie Collard, paru le 11 juillet 2024 dans La Presse. Dans « Quelqu'un doit parler », l'essayiste et professeur de littérature Mathieu Bellil et l'urgentologue et écrivain Alain Vadeboncœur proposent un échange riche et pas morbide pour deux sous sur la mort. Notre chroniqueuse s'est entretenue avec les deux auteurs. Extrait choisi d'une longue conversation. Nathalie Collard. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'idée de la mort, qui stimulait votre réflexion? Alain Vadeboncœur. D'abord, on va tous mourir un jour. On peut décider d'être dans le déni, mais de mon point de vue, c'est plus difficile. La mort, c'est quand même assez fréquent dans ma réalité de médecin urgentologue. C'est un événement profondément humain qui m'a interpellé à travers mon métier. On est tous légitimés d'en faire un sujet d'importance. C'est rare les sujets où on est universellement concerné. Mathieu Bellil. Il y a une grande partie de la littérature qui est habitée par cette question-là, du besoin de donner un sens à la mort. D'un point de vue personnel, c'est une conscience qui m'habite depuis toujours. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce n'est pas quelque chose de macabre. C'est une conscience que les choses vont finir. Je ne pense pas être le seul comme ça. Plus concrètement, je dois dire que la pandémie a été un immense révélateur. Je trouve qu'on a de la difficulté à parler de la mort. Et notre titre va un peu dans ce sens-là. Quelqu'un doit parler de ce qui entoure cette expérience-là. Nathalie Collard. Mathieu, vous écrivez qu'on a perdu les rituels entourant la mort. Or, il me semble que les gens réinventent de plus en plus des rituels laïques et non religieux. Mathieu Bellil. Je voulais parler de cette nécessité du rituel. M'assurer, dans le fond, que le service minimum soit donné à tout le monde. Parce que de belles funérailles, il y en a, tout comme il y a des funérailles décevantes. Je voulais surtout parler de ce moment, durant la pandémie, où de nombreuses personnes ont été privées de toute forme de rituel. J'ai trouvé ça très grave, comme s'il restait quelque chose d'inachevé. Alain Vadeboncœur. On a beaucoup ritualisé tous les événements importants de la vie, mais les rituels de la mort viennent après la mort. Et donc, ils concernent les vivants, et très peu la personne qui n'est plus là. Que la personne meure de façon imprévue ou au terme d'une longue maladie, et alors elle s'éloigne graduellement et n'est plus en contact avec son entourage. Il n'y a pas d'échange, de dialogue à propos de la mort. L'arrivée de l'aide médicale à mourir a changé cela. Je n'en pratique pas, mais j'ai des amis qui m'en ont parlé. Il y a une ritualisation qui inclut la personne. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire humaine. Il faudra en parler davantage dans le tome 2. Nathalie Collard. Faudrait-il se préparer à la mort comme on se prépare au mariage ou à la naissance? Mathieu Bellil. Philosopher, c'est apprendre à mourir, disait Montaigne. Si on vivait mieux avec les limites, si on vivait mieux avec l'idée de notre propre fin, au sens qu'on ne peut pas être partout, qu'on ne peut pas vivre toutes les vies, qu'on ne peut pas être performant tout le temps, productif tout le temps, que des fois, il faut que ça s'arrête, et qu'il y a en nous quelque chose de mortel. Ce n'est pas évident parce qu'on est dans un régime économique et social qui est assez allergique à ça. La vie telle qu'on la mène aujourd'hui, la manière de se valoriser socialement, c'est de dire qu'on travaille trop, qu'on en a beaucoup, que ça n'arrête pas. Accepter les limites des autres, c'est une manière de se reconnecter avec la part mortelle de soi. Nathalie Collard. Est-ce qu'on peut apprendre de la mort des autres? Je pose la question au docteur Vadeboncœur, qui est confronté dans son quotidien. Alain Vadeboncœur. J'ai appris énormément dans le moment qui vient tout de suite après la mort, avec la famille et les gens de l'entourage. C'est un moment rempli d'humanité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on parle toujours des cultures, chacune avec leur rituel. Or, au moment de perdre quelqu'un, la plupart des gens se ressemblent. Ça devient extrêmement simple. C'est un événement difficile, évidemment, et bouleversant pour ceux qui l'ont vécu. Mais la culture ne compte pas tant que ça. C'est un événement humain, profond, qui déstabilise et fragmente les gens, les pousse à leurs propres limites. Et ça, c'est universel. Ensuite, dans les jours et les semaines qui suivent, la culture et la religion vont récupérer tout ça et tenter de lui donner un sens. Nathalie Collard, que pensez-vous de notre rapport au deuil? J'ai l'impression qu'on ne s'accorde pas le temps et l'espace pour le vivre pleinement. Alain Vadeboncœur. Je pense que ça fait partie des éléments qui sont encore tabous. On ne peut pas faire grand-chose avec le deuil. C'est la partie un peu longue et laborieuse associée à la mort. Il y a un instinct de vie en nous qui nous amène à fuir ça. Mais la beauté des sociétés humaines, c'est qu'elles se sont bâties souvent contre les instincts. Et je pense que c'est un mauvais instinct qu'on a de vouloir fuir le deuil. Quand on entend le mot « mort », on s'en va de l'autre bord. Mais en réalité, ça fait l'effet inverse. Ça nous rend plus anxieux, plus craintifs encore. Nathalie Collard. Ce dialogue vous a-t-il fait cheminer? Vos idées ont-elles changé ou évolué au fil de vos échanges? Mathieu Bellil. Un vrai dialogue, c'est courir le risque d'être dérangé par l'autre, dans le bon sens du mot. Et si on n'est pas atteint par l'autre, c'est que dans le fond, on va moins dialoguer et on va se contenter de défendre notre point de vue. Il y a quelque chose de très beau dans ce que raconte Alain, quelque chose de précieux qui doit être raconté. J'ajouterais que peu importe le sujet, les divergences de vues ou les cultures, quand deux personnes se parlent ou essaient de se parler, elles ont toujours plus de points communs que de points de divergence. Les gens sont beaucoup plus près les uns des autres qu'ils ne le pensent. C'était « Apprendre à vivre et à mourir ». Un texte de Nathalie Collard, paru le 11 juillet 2024 dans La Presse.
Une saucette à la piscinette, un texte de Fanny Arcan, paru le 20 juillet 2024 dans La Presse. La piscinette porte bien son nom. Construite dans un ancien conteneur maritime, cette piscine éphémère est bien petite, mais dans un îlot de chaleur comme le centre-sud, elle fait un monde de différence. Il ne faut pas que les gens sachent que ça existe, sinon tout le monde va venir, plaisante Barbara Boutin, plongée dans l'eau jusqu'aux épaules, aux côtés de sa fille Flavie. Autour d'elle, le calme règne en ce vendredi midi. Une poignée de personnes se baignent sous le regard de sauveteurs, pendant que d'autres se prélassent dans des hamacs juste à côté. Installée depuis le début du mois de juillet 2024, au milieu du parc Joe Monferrand, dans le centre-sud, la piscinette est accessible gratuitement tous les jours de la semaine, de midi à 19 heures. Derrière l'installation de bois qui entoure la piscine d'eau salée, un grand espace couvert de sable et ponctué de parasols s'offre aux usagers qui veulent étirer leur visite. Le projet tombe à point pour les habitants de Ville-Marie, un arrondissement truffé d'îlots de chaleur où il n'existe aucune autre piscine extérieure publique, sauf sur l'île Sainte-Hélène. Avec les canicules qu'on a eues cet été, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ça ici, ajoute Barbara Boutin, un grand sourire aux lèvres. Un besoin de fraîcheur. La piscinette est apparue pour la première fois en 2022 sous forme de projet pilote, avant de renaître cette année. Selon Sophie Moserolle, conseillère municipale du district de Sainte-Marie, il s'agissait d'une nécessité. On est dans un quartier qui subit beaucoup les impacts des changements climatiques, donc on voulait multiplier l'offre en termes d'îlots de fraîcheur, explique-t-elle, assise au bord de la piscine. Sophie Moserolles et son équipe ont cherché une solution peu dispendieuse qui pourrait se construire rapidement. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette idée de piscine dans un conteneur maritime, explique-t-elle. La piscinette peut accueillir jusqu'à 20 personnes, une limitation qui rendait la conseillère un peu nerveuse de prime abord. « Mais on a un bon roulement », affirme-t-elle. « C'est arrivé quelquefois qu'une petite file se forme, mais en général, les gens s'installent pour se rafraîchir et ils repartent ensuite. » En plus de la piscine, le parc Joe Montferrand s'est doté pour l'été d'un terrain de volley de plage et de bac à sable, en plus de salles de bain portables. Une programmation gratuite, incluant des animations pour enfants, des cours de yoga et des ateliers de danse, assure une vie de quartier autour de la piscinette. On tenait vraiment à avoir une offre de loisirs complète, explique Sophie Moserolles. Une idée à propager. Étendue dans un des hamacs qui longe la piscine, Théo Dupuis-Carbonneau se repose après une courte baignade. « Je viens ici souvent. Même qu'avec mon copain, on se donne parfois rendez-vous ici à l'heure du midi, durant nos journées de travail », ajoute la résidente d'Hochelaga, qui a aussi fréquenté la première mouture du projet en 2022. La piscinette est déjà très populaire auprès des résidents du coin, selon Théo Dupuis-Carbonneau. Ça serait chouette que d'autres arrondissements fassent la même chose pour que plus de gens puissent en profiter, ajoute-t-elle. Sophie Moserolles espère exporter ce modèle dans d'autres secteurs denses où les piscines extérieures se font plus rares. D'autres arrondissements et municipalités ont par ailleurs déjà manifesté leur intérêt, selon la conseillère de la ville. Là, on a une infrastructure qui se déplace et qui est très flexible. On espère que ça fera des petits ailleurs, souligne-t-elle. C'était Une saucette à la piscinette, un texte de Fanny Arcan, paru le 20 juillet 2024 dans la presse.